Ce podcast est une production Blabla Studio.
Julia donne le ton, le retour, c'est reparti pour une nouvelle saison. Après une grossesse et un bébé, je suis ravie de revenir derrière mon micro pour continuer à vous proposer des épisodes autour des thèmes de l'entrepreneuriat, du leadership, des stratégies commerciales et de communication, de la charge mentale et de la maternité. La petite nouveauté pour ce retour, j'ai envie de parler également aux dirigeants d'entreprise, ceux qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui ont les mains et les cerveaux bien remplis. Vous trouverez donc ici des conversations riches en expérience, en parcours de vie, en conseils professionnels, mais aussi en gestion de vie perso. Je suis ravie de vous retrouver et passer quelques temps avec vous. À présent, place à l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Après un premier épisode avec Ilia Beauty, une marque américaine qui vient s'implanter en France, j'échange aujourd'hui avec une marque française qui se tourne vers l'international. À mon micro, je reçois Chloé Renard, la directrice générale de Seasonly. General manager depuis ses 27 ans, Chloé a toujours travaillé dans le milieu de la beauté et a longtemps géré l'ouverture de nouveaux marchés dans des pays étrangers. Ses missions, ses challenges au quotidien, sa vision du management, sa vie de famille et sa charge mentale, on a discuté de tous ces sujets et bien plus encore que je vous laisse découvrir dans ce nouvel épisode. Hello Chloé.
Hello.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Écoute, ça va bien, je suis contente d'être là.
Alors tu viens échanger avec moi sur le développement d'un business à l'international, qui est un gros sujet pour Seasonly, donc tu es la directrice générale. Petit topo pour Seasonly, pour ceux qui pourraient ne pas connaître, c'est une marque de cosmétiques française, clean, efficace et sensorielle, créée en 2018 par Fanny Pechioda, qui se différencie par son offre de massage visage sur mesure, qu'on peut retrouver dans leur studio parisien, mais aussi dans 36 Face Glow Bar chez Sephora en Europe. Alors raconte-nous déjà comment tu es arrivée chez Seasonly. Il y a 2 ans presque maintenant.
Oui, tout à fait. Alors, complètement par hasard, comme souvent, je pense, dans la vie. Donc moi, j'étais chez Benefit pendant 12 ans. Et un jour, je vois qu'un nouveau service est lancé chez Sephora. Et donc, par curiosité, j'ai pris rendez-vous pour aller tester ce service. Et donc, c'était le premier Face Glow Bar Seasonly. Et en fait, le jour où je suis allée me faire masser, il y avait quelqu'un de chez Seasonly qui était là et qui m'attendait à moitié. Et voilà, et qui m'a proposé de déjeuner pour échanger sur comment faire du service chez Sephora. Et en fait, je suis allée à ce déjeuner. Et ce jour-là, il y avait aussi donc Fanny, la fondatrice de l'entreprise. Et voilà, et au cours du déjeuner, Fanny m'a dit, nous, on va chercher une nouvelle DG. Est-ce que ça peut t'intéresser? Et voilà, c'est comme ça que je me suis embarquée dans l'aventure Seasonly.
Ok, alors sans du tout savoir, dans ma tête, je m'étais dit, bon, ça doit être un chasseur de tête.
Absolument pas.
T'as passé 15 entretiens.
Pas du tout, j'ai jamais passé d'entretien. Ça a été une rencontre et beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Finalement, j'ai décidé de sauter le pas.
Et raconte-nous ce que tu faisais chez Benefit. T'as passé plusieurs années.
Alors oui, j'ai passé 12 ans chez Benefit. J'ai été recrutée au Brésil, parce que moi, j'ai habité au Brésil très longtemps. Je suis partie après mon école de commerce au Brésil pour rejoindre un projet de start-up. Et en fait, j'ai été recrutée au Brésil par Benefit en tant que general manager pour le Brésil. Et à savoir, à l'époque, Benefit n'était pas encore lancé au Brésil. Et donc, ma mission, c'était de lancer la marque au Brésil.
Et c'est une marque qui est américaine, Benefit ?
C'est une marque qui est américaine, qui a été fondée en 1976 à San Francisco. Et donc, moi, j'ai développé le marché brésilien d'abord. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai été promue à l'Amérique du Sud d'abord. Donc, je me suis occupée du développement du Chili, de la Colombie. Et puis après, j'ai été promue au poste de directrice de l'Amérique latine. Donc, j'ai récupéré le Mexique. Et puis, j'ai aussi, en dernier, ouvert le Pérou. Pendant 8 ans, j'ai ouvert des pays en Amérique latine.
Donc, tu t'y connais donc, en gestion de marque et création d'un nouveau marché.
En développement international, voilà. Et en fin 2018, pendant mon deuxième congé maternité, Benefit m'a proposé de rentrer en France pour prendre le poste de direction générale de la France. Et donc, je suis rentrée avec mon mari et mes enfants à
Paris. Avec regret, d'ailleurs ?
Non, pas avec regret, parce qu'on avait un peu le projet de partir du Brésil. Pas du tout de rentrer en France, c'était vraiment pas notre choix numéro un. Mais voilà, on avait besoin d'un nouveau souffle. On a beaucoup d'amis qui sont partis en fait en 2015. Il y a eu quand même une grosse crise au Brésil, et donc il y a beaucoup d'expatriés qui sont rentrés, beaucoup de business, de filiales qui ont fermé. Nous, c'est le moment où on a eu notre premier enfant. Donc les deux en même temps, ça nous a mis un petit coup, ouais, parce qu'on s'est un peu retrouvés un peu plus isolés en fait. On est vraiment passé de la vie d'être avec plein d'amis tout le temps et être parent un peu assigné à résidence et avec moins d'amis. Et donc voilà, et donc à partir de là, je pense qu'on a commencé à se dire, bon, peut-être que ça serait intéressant de partir. Et voilà, et donc après, on a eu notre deuxième enfant. Et là, on s'est dit, at some point en 2019, on va vouloir bouger. On voulait rentrer en Europe pour se rapprocher de nos familles. Notre projet initial, c'est d'aller au Portugal pour faire une transition un peu plus soft. Et puis finalement, il y a ce job qui m'est un peu tombé dessus. Et voilà, on s'est dit finalement Paris. On a nos familles à Paris, beaucoup d'amis encore à Paris. C'était pas si mal.
Et j'en profite, c'est pas le sujet du podcast, hein, mais c'est comment la vie au Brésil ? C'était quelle ville déjà ?
Alors moi, j'ai passé 5 ans à Rio et 7 ans à Sao Paulo.
Ok.
C'est deux villes très différentes. Je pense que c'est un peu comme d'habiter, même pas Marseille et Paris, parce que Marseille, c'est quand même une grosse ville. Mais j'imagine Biarritz peut-être et ouais. Paris, tu vois. Rio, c'est donc une ville balnéaire. Au final, ce qu'on appelle la Zona Sul de Rio, qui est vraiment qui est l'endroit moi, où j'habitais, qui est en fait un peu enfermé par les montagnes. C'est assez petit, c'est assez limité. Puis après, tu as évidemment le Grand Rio et, voilà, qui s'étend beaucoup plus. Mais la zone dans laquelle tu évolues et la zone dans laquelle, quand les touristes viennent, vont, c'est vraiment cette zone qui est assez petite, puisqu'en fait, il y a les montagnes autour, donc c'est limité. Donc ville balnéaire, énormément de touristes, beaucoup d'artistes. Rio, c'est la ville des artistes, des médias... des novellas, voilà, il y a la Globo qui est le conglomérat médiatique du Brésil qui est là-bas. Donc voilà, c'est une vie très, très sportive, assez cool, etc. Sao Paulo, c'est la grande ville. Sao Paulo, c'est une ville qui dort jamais. D'ailleurs, on dit parfois que c'est le New York du Sud. Okay. C'est une énorme ville qui bouge, très cosmopolite. Des embouteillages 24 heures sur 24, des magasins ouverts 24 heures sur 24. Okay. Donc les deux villes sont très différentes. Moi, j'ai adoré le Brésil. Une partie de mon cœur est au Brésil. Mes deux enfants sont nés là-bas, enfants sont brésiliens. J'y retournerai peut-être un jour d'ailleurs, parfois avec mon mari, on s'est rencontrés là-bas.
Oui, ce que j'avais demandé.
Ouais. Okay. Lui, il arrive en 2013, moi ça faisait déjà 6 ans que j'étais au Brésil. Et oui, le Brésil, c'est un pays extraordinaire. Le Brésil, c'est surtout un pays où les gens sont extraordinaires. Mmh. C'est une joie de vivre naturelle que j'ai jamais retrouvée nulle part ailleurs. D'ailleurs, on y retourne chaque année, parce qu'on est... On est tous les deux fans de kitesurf, donc on va faire du kitesurf au Brésil et c'est un peu notre Madeleine de Proust. Et non, c'est vraiment, moi je peux que recommander le Brésil, c'est une expérience. Je connais personne qui est resté indifférent avec le Brésil. Les gens sont tellement d'une gentillesse, d'une joie de vivre. Vraiment, ça te porte, quoi.
Bah écoute, ça nous donne bien envie.
Oui, c'est vraiment, je vous conseille.
Trop bien, je vais prévoir ça dans les prochains voyages. Alors, pour revenir à notre sujet, donc Seasonly a récemment annoncé vouloir toucher plusieurs nouveaux marchés. Les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient. Comment fait-on pour faire connaître une marque sur un marché étranger ?
Alors, je pense que ça dépend beaucoup de la marque, de son niveau de maturité, des moyens. Enfin, moi, j'ai par exemple, comme je te le disais, fait ça pour Benefit pendant 8 ans en Amérique latine. Je pense que ça sera peut-être pas forcément la même approche pour Seasonly. Moi, j'ai un peu un mode opératoire systématique. Ça fait maintenant 15 ans que je suis dans la beauté.
Ouais.
Donc, je connais, c'est un assez petit monde. Donc, je connais des gens un peu partout dans le monde. Donc, ce que je commence par faire, c'est connecter avec des personnes qui sont dans ces pays, dans la beauté. Soit des personnes en direct, des amis, des anciens collègues, soit en demandant une amie qui connaît. Voilà. Mmh. Donc, je commence par discuter avec des gens qui sont dans la beauté, dans les pays.
Donc, le réseau.
Pour savoir, voilà, le réseau, mais c'est vraiment 90% du job.
Okay.
Au départ, en tout cas, savoir voilà, comment est le pays, quelles sont les spécificités. Puis, en fait, voilà, quand on parle à d'autres experts de la beauté, on se comprend assez rapidement sur voilà, quel positionnement, d'avoir un peu une idée de où les personnes vont acheter, de est-ce que c'est plutôt e-commerce, est-ce que c'est plutôt brick and mortar, est-ce que les gens vont en pharmacie, est-ce que les gens vont dans des chaînes de parfumerie. Donc voilà, je me renseigne, je pense que c'est voilà, le plus important à la base, c'est de se renseigner sur le marché. Et après ça, justement, un peu définir la stratégie en fonction de ce qu'on nous dit. Par exemple, est-ce que c'est un pays où l'influence est hyper importante et tu peux exploser juste en parlant à 2-3 influenceuses extrêmement influentes, ce qui est par exemple potentiellement le cas au Brésil, pays vraiment avec des très très avancés sur l'influence. Okay. Donc c'est un énorme pays en plus, le digital est extrêmement important évidemment, puisque quand on est dans un pays qui fait la taille d'un continent... Il y a assez peu de chaînes qui sont présentes dans toutes les villes du Brésil. Donc voilà, donc définir sa stratégie par rapport aux spécificités du pays. Je pense que quand on est une marque française, on a toujours un petit avantage. Je pense que la France, à l'international, a toujours un peu ce cachet. C'est toujours un avantage d'être une marque française.
Un cachet qui assure l'efficacité ou qui assure plus un positionnement par rapport à l'image,
je pense que c'est un gage de qualité. en premier. Je pense que les gens pensent France qualité et que c'est forcément cool, enfin forcément fancy, chic, voilà.
T'as envie de l'avoir, quoi, juste parce que c'est français, entre guillemets. Mm. Et est-ce que, donc, à part le Brésil, où effectivement ta réflexion est intéressante sur le fait que ça soit un si grand pays que personne ne peut couvrir l'entièreté du pays, mais pour des pays plus petits, on va dire, est-ce qu'il faut forcément être accompagné par un partenaire sur place quand on arrive dans un nouveau pays ?
Alors, moi, je suis convaincue que tout se passe en local. Enfin, en tout cas, presque tout. Mais aussi, c'est ce que j'ai vécu et c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, quand j'ai ouvert l'Amérique latine, la première chose que je faisais, c'est donc déjà, moi, prendre ma petite valise et puis aller dans le pays et puis rencontrer des retailers, aller visiter des magasins, rencontrer des agences RP. Et puis, la deuxième chose que je faisais, c'est que je recrutais quelqu'un qui était du pays, en fait. Ouais. Parce que je pense, et notamment quand on parle de cosmétiques et donc on parle quand même beaucoup de désirabilité, de... Il y a des subtilités, tu sais, c'est un peu comme l'humour. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais quand tu as un dîner avec des personnes qui n'ont pas la même nationalité que toi, même s'ils parlent la même langue, etc., voilà, les gens n'ont pas le même humour, les gens n'ont pas les mêmes références. Oui. Et ben, c'est un peu pareil. Ça veut dire que moi, tu vois, j'ai habité 12 ans au Brésil. Mais même après 12 ans, j'avais moins... parfois, j'avais des discussions avec mes équipes sur telle influenceuse. Elle me disait tout de suite, « Ah non, mais... Elle, oui, elle, non. Ouais. Elle, c'est pas du tout la marque, etc. » Alors que moi, j'avais pas forcément tout ce niveau de subtilité parce que je savais pas qu'il y a 20 ans, il s'était passé ça. Bien sûr, tu vois. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un en local. Et puis même après, pour la gestion au day-to-day. Voilà. Donc, je trouve que c'est à choisir. Je préfère toujours avoir quelqu'un en local et qui est natif du pays.
Et après, donc ma réflexion à la base pour ce thème là de développement international, c'était en fait qu'est-ce qui se passe en France ? Il y a un plafond de verre à un moment donné quand tu es une marque, alors principalement cosmétique parce que là on parle de Cézanne, mais pourquoi il y a toujours cette volonté d'aller s'expandre et de tout de suite aller toucher d'autres marchés ? Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'en France, ce qu'on entend très très souvent, c'est que c'est assez saturé en termes de marché dans la beauté ?
C'est sûr que c'est un marché où il y a énormément d'offres aussi parce que la France est un peu le berceau de la cosmétique. Je pense pas que c'est une fin en soi. Je pense que ça dépend de la stratégie de la marque. Nous, ça a toujours été dans notre ADN. Et en plus, ce n'est pas tout de suite aller à l'international. Cézanne, c'est une marque qui a 4 ans. Ça fait 4 ans. Enfin, voilà, on a d'abord développé en France, puis en Europe avec un partenaire avec Sephora. Et puis, on prépare l'Asie depuis déjà quelques temps. Et on a déjà des premiers marchés qui ouvrent. Okay. Mais nous, je pense que ça a toujours été dans l'ADN, en fait, de se dire qu'on voulait vraiment devenir la marque de Frenchy Pharmacy. Et on s'est préparé aussi, on s'est structuré depuis le début avec cette perspective. Je pense que tu ne te structures pas forcément pareil. Tu vois, on a un logisticien qui est un des leaders de la logistique en France. Tous nos packaging sont déjà compliant pour être exportés dans le monde entier. Nos formules aussi. On s'est préparé à ça.
Oui, dès le début.
Okay. Dès le début. Et là, on a envie de continuer l'expansion parce que c'est cool, quoi. C'est sympa de se dire que voilà, notre marque va être... va être connue dans d'autres pays. Et puis aussi, évidemment, les appels entrants des distributeurs qui t'appellent en disant voilà, on aimerait avoir votre marque. Là, au début, tu te dis, mais c'est incroyable comment ils me connaissent.
Bah ouais.
Je pense que voilà, c'est continuer l'aventure.
T'es arrivée avant ou après le deal Sephora ?
Je suis arrivée après.
Et tu, avec ton œil d'experte, tu trouves que c'était une bonne idée ? C'est une grosse valeur ajoutée pour vous ?
Alors, je pense deux choses. La première chose, c'est que le partenariat avec Sephora, il s'est fait sur proposer une expérience dans les magasins Sephora. Et ça, moi, j'y crois énormément.
Tu l'as fait avec Benefit, d'ailleurs.
Et je l'ai fait avec Benefit. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est pas moi qui l'ai développé. Mais oui, j'ai aussi fait ça, évidemment, chez Benefit. Et donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui a énormément de force. Moi, je pense qu'on fait confiance à la personne qui touche notre peau, qui touche nos cheveux. Quand tu vas chez le coiffeur, ton coiffeur, s'il te dit « il faut que tu achètes... le shampoing B15 E2 de telle marque, tu regardes pas le prix, enfin tu regardes même pas le prix, tu poses pas la question de ce que c'est cette marque, tu l'achètes en fait parce que tu fais confiance à ton coiffeur. Donc moi je pense que la force de proposer cette expérience en magasin qui permet déjà en plus de faire venir les gens en magasin, hein, ce qui est aussi un point important, crée de la fidélisation et qui crée une vraie connexion en fait avec la cliente. Donc ça je pense que c'est une stratégie, donc une approche du marché serviciel qui est hyper intéressante. Versus, et d'ailleurs, enfin, c'est un peu ce qu'on voit, mais versus un peu la, la, la mode qui a eu ces dernières années de DNVB, de Digital Only. Clairement, on en revient tous. Donc je pense que voilà, je pense que c'est le retail et le contact humain est hyper important. Et je pense que les gens ont envie aussi de continuer à avoir des contacts avec des humains et de pas être en contact avec leur téléphone ou leur ordi. Puis la deuxième chose, tu me posais la question par rapport à Sephora. Oui, évidemment. Sephora, c'est aussi une garantie de qualité. C'est une évidence d'être dans tous les Sephora en Europe. C'est très bien pour une nouvelle marque.
Oui. Oui, bien sûr. Un gage encore, comme on dirait.
C'est un gage de qualité, c'est un accélérateur. Ouais.
D'ailleurs, pour revenir à Seasonly et ce que vous proposez en termes de massage, notamment Face Global, il y a quand même cette tendance aussi. Donc, je récapitule pour ceux qui ne connaîtraient pas. Chez Sephora, on peut se faire masser.
Oui.
Avec donc un massage type gym du visage pendant 15 minutes.
Voilà.
Pour 25 euros. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Honnêtement, je pourrais aussi être un peu calée sur tout ce qui se passe niveau beauté. Je crois que c'était assez connu aux États-Unis, ce côté fast.
Fast healing.
Ouais.
Et au UK aussi, et pas encore forcément en France. Alors, nous, on propose un massage de 15 minutes qui est un protocole qu'on a développé, donc qui nous appartient. Et qui mixte des techniques donc de Kobido, de face sculpting et de drainage lymphatique. C'est pas du tout connu sur ce format-là, mais il y a quand même de plus en plus de femmes. Moi, j'ai de plus en plus de copines qui me disent ah bah oui, une fois par mois, je me fais faire un Kobido par la copine d'une copine qui s'est formée. Donc c'est quelque chose de très confidentiel. Ouais. En général, c'est 150 euros la séance, et puis il faut aller chez machin, voilà, c'est pas du tout pignon sur rue et je book sur internet. Nous, on a vraiment voulu démocratiser ça. Nous, on est convaincus qu'une bonne crème ne fait pas tout. Et d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, moi, personnellement, avant de travailler chez Seasonly, j'en avais pas du tout conscience. Pourtant, je suis hyper sportive, donc j'ai bien conscience que si je fais marcher les muscles de mon corps,
oui,
clairement, mon corps, il va avoir une meilleure tête que si je fais zéro sport. Et en fait, sur le visage, on a presque 50 muscles entre le visage et le cou.
C'est très nouveau.
Mais c'est complètement logique en même temps, si tu y penses. De se dire qu'en fait, si tu fais travailler les muscles de ton visage, si tu les stretches, si tu les stimules, si tu les muscles, bah, ton visage, il va moins s'affaisser, de même que ton corps, en fait. Donc ça, je trouve que c'est assez génial, puisque ça te dit aussi quelque chose. Ça te dit, en fait, tu as le pouvoir de faire quelque chose. Tu n'es pas que dépendante de la chirurgie esthétique ou d'acheter des crèmes qui coûtent 400 euros. Tu as le pouvoir, en fait, dans tes mains aussi, puisque donc, nous, on propose ces massages donc, que tu peux faire donc, ou dans nos studios, ou chez Sephora.
Mais aussi des gestuels à faire.
Voilà,
à la
et donc tu es reçu par une facialiste qui a été formée par nos soins, qui va aussi te poser la question de c'est quoi ton plus gros dilemme. Voilà, moi par exemple, c'est mes rides du front. Et bah, elle va t'expliquer comment masser tous les jours, une ou deux minutes, tes rides du front pour qu'elle.
Elle se voit moins.
Voilà, elle se voit moins. J'allais dire, elle disparaît.
Oui,
non,
que
parce que pour moi c'est trop tard, mais pour qu'elle se voit moins.
Ouais.
Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant de dire que tu couples voilà, la crème et. Et la gestuelle. Et donc, très nouveau, oui, puisqu'on est les seuls à faire ce format aussi court et aussi accessible. Et en plus, proposé chez Sephora, on en a dans toute l'Europe maintenant, pour 25 euros, que tu peux réserver en ligne. Ou bien, tu peux aussi aller dans le magasin direct. Et puis, si la personne est dispo, tu peux te faire masser.
J'ai testé, je confirme que c'est canon. Et c'est surtout qu'en plus, vous avez une large carte de soins, mais aussi des soins saisonniers. Et là, il y a un nouveau soin qui est sorti qui s'appelle le Notox, qui est génial avec de la luminothérapie. Je vous mettrai toutes les infos dans la légende de cet épisode.
Alors, tu parles de Notox juste
oui.
Parce que je pense que c'est une tendance qui est encore assez nouvelle. Donc, le Notox, c'est la contraction de No Botox. Je tiens à dire qu'on n'est pas du tout contre le Botox. Parce que voilà, on aime tout le monde. Moi-même, j'ai beaucoup hésité à faire du Botox il y a un an. Et puis finalement, j'ai pas passé le pas parce que ça me faisait trop peur. Donc nous, on essaye de proposer des alternatives justement aux méthodes invasives. Non pas qu'on, voilà, une fois de plus, on pense que chacun fait ce qu'il veut.
Mais d'ailleurs, ça peut être en complément.
Et voilà, et j'allais dire, et c'est aussi complètement en complément, tout à fait, puisque les injections de Botox ou d'autres injections finissent par avoir un effet qui s'amoindrit. Et donc, on peut tout
ça.
À fait voilà, cumuler les deux. Mais nous, on essaye de... Voilà, on travaille on fait de la recherche pour... trouver des solutions alternatives et c'est comme ça qu'on a lancé notre produit et donc l'huile Tensiolift en septembre qui est une huile qui contient un ingrédient qui s'appelle le spilanthès qui en fait imite les effets du Botox puisqu'il va travailler sur les muscles et il va en gros un peu paralyser les muscles voilà pour que les rides soient moins visibles.
Soit moins là. qu'on adore, évidemment, l'huile tensiolift. Et il y a des nouveaux produits qui arrivent très vite
et
cette année.
Il y a des nouveaux qui arrivent, voilà, exactement. Cette gamme.
Donc revenons un peu à toi. Quelles sont tes missions aujourd'hui? Que fait une directrice générale chez Seasonly? À quoi ressemblent tes journées?
Alors, mes journées ne se ressemblent pas, déjà. Ça, c'est côté chouette de mon métier. Je pense que c'est essentiellement de l'humain. Honnêtement, voilà, mon métier, c'est de coordonner des équipes, de fédérer des équipes, de motiver des gens, de donner envie aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'orchestrer tout ça et de prendre des décisions.
Donc, il y a un vrai côté management.
Très gros côté management.
Un peu ressources humaines.
Et aussi beaucoup de ressources humaines. Et heureusement, j'ai une DRH extra à mes côtés qui m'aide énormément là-dessus. Et puis, prendre des décisions. Ouais, en fait, moi, c'est beaucoup... Très souvent, je réalise à la fin de la journée que ma journée, ça a été essentiellement prendre des décisions et parler avec des gens, quoi.
Et tu dirais éteindre des feux ou gérer des urgences, entre guillemets?
Alors, toujours, mais alors ça, j'ai envie de te dire, c'est tellement, surtout quand tu es dans une entreprise en hyper-croissance. En fait, c'est même plus des urgences. Mon quotidien, c'est pour ça que je te parle de prise de décision, mais c'est prendre des décisions en 5 minutes, tout le temps. Donc oui, ça s'appelle des urgences, en effet.
Ouais.
C'est pas forcément des crises, ouais. Parce qu'en fait, on est habitué à ça. C'est devenu mon quotidien.
C'est tellement devenu banal.
Mais c'est vrai que c'est un temps. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en passant d'un grand groupe comme LVMH à Seasonly.
Startup, entre guillemets.
Hein. Voilà. C'est la notion du temps. On n'est plus du tout inscrit dans le même temps. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es dans un grand groupe, tu as une idée, tu réfléchis, tu fais une présentation.
Ah oui,
tu te dis, je le présenterai au prochain CODIR.
Okay.
Tu en parles à quelqu'un d'autre. Puis au prochain CODIR, tu présentes. On dit, ah oui, bonne idée, on va en parler à un tel. Et puis on se revoit, nanana.
Oui,
quand on a une idée à 9h15 le matin, il faut qu'à 11h, elle soit testée. Et puis à 14h, on décide si c'est une bonne idée ou pas. Il n'y a pas le temps, en fait. Honnêtement, je ne sais pas. Pas vraiment ce que je fais la semaine prochaine.
Ouais. Et ça te convient, ce rythme, d'ailleurs?
Alors, est-ce que ça me convient? Je pense oui, parce que sinon, je serais plus là. Mais c'est intense.
Ouais.
C'est un rythme très intense. Et justement, moi, j'essaye de me prendre des moments. Alors, par exemple, le vendredi, en général, je reste en télétravail. J'ai chaque semaine l'espoir de pouvoir avancer sur des sujets plus long terme, ouais. Etc. C'est honnêtement, au final, en général, j'ai plein de meetings aussi. Mais en revanche, je dirais que le pendant de ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à déconnecter. Parce qu'en fait, le seul moment où je peux vraiment me projeter, réfléchir à du plus long terme, c'est potentiellement les moments où je devrais déconnecter. Le soir, le week-end, pendant les vacances...
Oui,
c'est des moments où en fait je réfléchis vraiment, ouais, où ça. Je me dis alors là qu'est-ce qu'on va faire.
Bien sûr,
parce que
pas
c'est
la tête dans le guidon,
c'est évidemment aussi très important dans ce genre d'entreprise d'avoir toujours un coup d'avance, et donc il faut stagner dans le guidon tout le temps, a priori tu te plantes, donc il faut toujours malgré tout garder du recul, prendre du recul. Je vais à pied au bureau le matin et je rentre à pied le soir, donc j'ai beaucoup de chance. Et donc pendant ces temps-là, j'essaye de prendre du recul.
Tu fais rien, t'appelles personne.
Voilà, j'appelle personne, exactement.
Et tu réfléchis. C'est pas mal, moi je fais ça sur mon vélo aussi pour finir et rentrer.
Et puis aussi, je fais beaucoup de sport aussi, donc quand je vais courir, je réfléchis. C'est des moments qui sont assez... qui me permettent vraiment... Enfin, souvent quand je cours, c'est là où je réalise des choses. Je me
oui,
dis,
oui.
Ah ouais, non, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Je ne l'ai pas du tout vu venir.
Bien sûr, je vois très bien. Ton plus gros challenge chez Seasonly aujourd'hui, c'est quoi?
C'est l'humain.
Je dirais que c'est le plus difficile d'ailleurs.
C'est ce que je préfère et c'est, je pense, le plus difficile.
Ouais. Ah, c'est ce que tu préfères?
Ouais, clairement. Moi,
tant mieux, parce que...
J'adore, je trouve que c'est...
C'est évident.
Non, mais moi, en fait, j'ai un poste de general management depuis que j'ai 28 ans, en fait, 27 ans. Et en fait, j'ai toujours eu ce... ça a toujours été ma mission numéro une, ça a quand même toujours été le management. Je suis passionnée par ça. Je trouve que c'est très gratifiant. Développer des équipes, recruter des gens, et puis après les faire grandir. Je trouve que oui, c'est hyper gratifiant. C'est très enrichissant. Moi, j'adore discuter avec les gens. Et oui, c'est vraiment ce que je préfère faire dans mon quotidien. Je trouve que l'intelligence collective, c'est assez exceptionnel. Le nombre de fois où je me retrouve devant des sujets où je me dis ce truc-là, on ne va jamais le sortir. Puis en fait, tu ne sais pas comment, mais tac, 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 ça s'agence, les gens commencent à discuter. Et puis au final, tu sors un truc incroyable et je me dis à chaque fois, mais c'est dingue, quoi. C'est quand même assez... je trouve ça vraiment magnifique, cette intelligence collective. Et c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile, surtout quand t'es DG, parce qu'en fait, quand t'es DG, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois être parfaite tout le temps.
Bien sûr, bien sûr.
Tu dois montrer l'exemple. Et donc, aussi, voilà, être juste. Et en même temps, parfois, il faut savoir dire non. Parfois, c'est hyper dur. Parfois, il faut juste t'expliquer que c'est pas possible. Donc, t'es dans un rôle, en fait. T'es dans un rôle où, que t'as pas forcément envie... t'as pas forcément envie de porter tout le temps non plus, d'être la personne qui dit non, d'être la personne qui doit dire des choses qui sont pas hyper agréables à entendre. En fait, c'est un peu comme le rôle de parent. C'est un peu pareil quand t'as tes enfants et qu'ils te demandent quelque chose et que t'aimerais leur dire oui. Moi, j'aimerais leur dire oui, tu peux reprendre une glace alors qu'il est 22h. Mais en fait, non.
Y a des règles,
je suis obligée de te dire non parce qu'en fait, non, à 22h, on va pas reprendre une glace.
Et d'ailleurs, quel type de manager es-tu ?
Alors ça, il faudrait demander à mes équipes. Je pourrais pas te répondre honnêtement, mais je vois très bien ce que tu veux dire.
Ouais.
En revanche, je peux te dire ce que je dis aux personnes avec qui je vais potentiellement travailler. C'est que donc moi, je suis pas du tout un micromanager. Je donne énormément, je délègue énormément. Je donne énormément de liberté. Parfois, les gens disent que quand tu deviens mère, tu deviens une meilleure manager. Je pense que c'est vrai parce qu'en fait, tu as beaucoup moins de temps. Moi, on a fait un pacte, et d'ailleurs mon mari aussi, on a fait un pacte familial avec mon mari au moment d'avoir notre premier enfant, qu'il fallait qu'on soit là tous les deux à 19h tous les soirs. On avait des modèles dans notre entourage, pratiquement que ce modèle-là, de parents qui disaient « toi, tu fais le soir, moi, je fais le matin ». Et donc, il y en avait un des deux qui partait un peu plus tôt, et l'autre qui s'occupait des enfants, les amenait à l'école, etc., ou attendait la nounou. Et le soir, c'était l'inverse, un des deux qui rentrait pour libérer la nounou, aller chercher les enfants, etc., et puis l'autre qui pouvait rentrer un peu plus tard. Et en fait, nous, on avait l'impression que du coup, ces couples-là ne s'occupaient jamais de leurs enfants ensemble et ne se voyaient pas beaucoup non plus.
Ouais.
Et donc, nous, on s'est dit, on va le tenter, on va s'occuper des enfants ensemble. Alors, honnêtement, c'est une grosse mission. Et je pense qu'au début, je pense qu'on l'a peut-être trop fait, notamment les week-ends. On aurait dû plus, justement, se laisser la possibilité, un des deux, de faire autre chose. Et comme on était beaucoup ensemble à s'occuper des enfants, en fait, on s'est, entre guillemets, un peu autorisé, mais de façon complètement tacite, assez tard, de se dire, moi, je vais aller déjeuner, en fait, avec un pote, et toi, tu t'occupes des enfants. En fait, on l'a fait assez tard, et je pense que c'était pas forcément une bonne idée. Mais en revanche, ce qu'on a fait, et qui est vraiment très précieux, c'est qu'on est tous les deux là à 19h. Alors, on a tous les deux énormément voyagé, donc notamment quand on était en Amérique latine, mon mari aussi, il avait un poste Amérique latine. Donc, en fait, c'était sur le papier, et on était tous les deux là à 19h, mais en fait, la plupart du temps, on était un des deux en voyage.
Ouais.
Mais depuis qu'on est rentré à Paris, moi, je voyage beaucoup moins. Mon mari continue de voyager pas mal, mais quand on est tous les deux à Paris, on est tous les deux là à 19h. Et donc, mes journées, elles ne sont pas extensibles. Donc, pour en revenir à mon mode de management, moi, en fait, mon but, c'est clairement de trouver des gens et de les coacher pour qu'ils puissent faire leur mission de façon la plus indépendante possible, pour que moi, je puisse aussi faire rentrer tout ce que j'ai à faire entre 9h15 en général et 18h45.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, je pense que le pendant de ça, c'est que j'ai tendance à faire confiance assez vite et à vraiment déléguer.
Ouais.
Mais si à un moment donné, je sens qu'en fait, ça ne le fait pas, je peux devenir... assez relou. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je vois qu'en fait, non, ça ne va pas le faire, je vais demander de rendre des comptes, je vais demander...
Tu vas être plus sur le dos de la personne.
Je vais être un peu sur le dos.
Est normal. Et du coup, dans ton organisation au quotidien professionnel, est-ce que tu dédies certaines tâches que tu as à faire en plage horaire, demi-journée, journée, ou pas du tout, tu fais un peu comme ça vient ?
Alors, j'ai déjà des réunions hebdomadaires qui reviennent... donc chaque semaine, par définition. Par exemple, tous les lundis, on commence avec toute l'équipe par ce qu'on appelle la morning routine, où en fait, on partage, donc chaque personne partage sa note du jour d'entre 0 à 10, et 10 de comment il se sent, donne sa plus grande victoire de la semaine précédente et son plus gros challenge de la semaine qui commence.
Okay.
Donc on commence tous les lundis à 9h15 par ça, avec toute l'équipe. Le lundi, j'ai aussi une réunion RH et une réunion créa. Tous les mardis, on se fait une réunion chiffres avec le CODIR. Donc, on parle des chiffres de la semaine précédente. Donc, voilà, c'est assez rythmé comme ça avec des meetings.
Okay.
Et puis, comme je te disais tout à l'heure, le vendredi, j'essaye d'être en télétravail et de me réserver du temps pour réfléchir à des sujets un peu plus long terme.
Alors, on va parler un peu de charge mentale. Tu nous le disais un petit peu avec ta vie familiale, ton mari, déjà se mettre un peu des challenges, on va dire, au quotidien, d'être là pour les enfants, etc. Est-ce que, du coup, en tant que directrice générale, même si tu nous as dit que tu l'es depuis longtemps, au final, c'est un poste que tu occupes depuis des années, là, aujourd'hui, tu es sur combien entre 1 et 10 ?
72.
Voilà.
Voilà. Non, la charge mentale, elle est énorme, c'est sûr. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, assez angoissé. Donc la charge mentale, je pense, elle est encore plus élevée.
Et tu la gères comment au quotidien ?
Je la gère comment ? Alors, avec beaucoup d'organisation. Je suis très organisée. En tout cas, pour mes enfants, par exemple, j'ai essayé d'instaurer une routine très rodée pour que justement, essayer d'anticiper au maximum et d'avoir moins de charge mentale.
Quel âge tes enfants d'ailleurs ?
Mes enfants, ma fille va avoir 6 ans et mon fils a 8 ans et demi. Donc beaucoup d'organisation et beaucoup de sport. Je fais du sport pratiquement tous les jours.
Ça t'arrive à trouver le temps à chaque fois ?
Vital pour moi.
Tu l'imposes.
C'est non négociable. Le jeudi soir, je fais du hip-hop pendant 3 heures. Je pense que c'est le seul moment de ma semaine où j'arrive à déconnecter. De toute façon, je n'ai pas le choix parce qu'il faut tellement que je me concentre que je pense à vraiment rien d'autre. C'est assez génial. Puis en plus, ça fait travailler vraiment une autre partie de mon cerveau, je pense. Puis sinon, je cours, je fais beaucoup de gym. Donc j'essaye de décompresser en faisant beaucoup de sport et en organisant beaucoup et puis en étant assez... J'essaie d'optimiser honnêtement chaque minute de mon temps. Je pense que ça, c'est assez difficile aussi parfois. J'aimerais juste parfois pouvoir ne rien faire pendant 5 minutes. Alors j'ai l'impression souvent de devoir optimiser. S'il me reste 5 minutes, je vais me dire « Ok, donc je mets la machine en route. Je vais sortir le truc du congélo.
Je pose au bout du bout le
temps qui me reste. Ouais. C'est dingue. C'est-à-dire que je ne peux jamais me dire juste... je vais partir plus tôt et puis comme ça, je serai tranquille.
Ouais, c'est exactement ça.
Je vais prendre mon temps.
Et il y a des moments, je me dis, même, t'as oublié d'anticiper sur ton chemin jusqu'au salon, il y avait ça que tu pouvais prendre.
Exactement, déposer. Mais c'est terrible.
Et
après, tu t'en veux, tu dis, c'est ça que j'aurais dû faire pendant que j'attendais le métro. Et en même temps, ça fait aussi faire des erreurs, je trouve. Parfois, je me dis, mais en fait, arrête de faire 5 choses en même temps.
C'est ça. Et puis, on se fout une pression. De dingue quand même, je trouve, sur les épaules. Donc il y en a qui font la même chose mais en plus détendu concrètement. Les deux dernières questions du podcast, la première c'est: quelle est ta plus grande réussite dans ta vie?
Je pense que c'est ma famille. Clairement, la famille que j'ai fondée avec mon mari.
Réponse classique, mais c'est toujours ce qui revient en fait.
C'est vrai.
Je pensais pas en la posant, mais ça me paraît logique parce que je pense que je répondrais ça aussi aujourd'hui, même si c'est assez nouveau de mon côté, parce que moi, je suis là que 11 mois, mais il y a quand même un... En fait, il y a que ça qui compte, tu vois,
la fin de la journée. Oui, c'est une énorme fierté, c'est sûr. Oui, il y a que ça qui compte, t'as raison, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est aussi ce qui m'aide, tu vois, tu me disais par rapport à la charge mentale, ça m'aide énormément à prendre du recul. Quand je commence à me prendre la tête sur un truc, je me dis, attends Chloé, c'est bon là.
Les enfants sont en bonne santé.
Tout va bien.
Vous avez un toit sur la tête. De quoi manger. Ça, c'est toujours ce que me répétait ma mère, pour relativiser. D'ailleurs, au niveau charge mentale, j'ai oublié de te demander, est-ce que ton mari t'aide ou...
Énormément. Alors, ce n'est pas qu'il m'aide, c'est que...
C'est divisé.
Mon mari, ce n'est pas de l'aide, c'est juste comme moi.
Ça, c'est fou.
Depuis toujours.
Génial.
Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais je ne pense pas, je pense qu'il aurait été pareil. Mais moi, j'ai fait une dépression postpartum après mon premier enfant. Donc de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix que aussi m'aider à s'occuper de notre fils. Et non, on est complètement sur le partage des tâches. Alors moi, je vais être plus dans la réflexion, c'est moi qui vais réfléchir.
L'anticipation,
qu'est-ce que les enfants vont faire pendant les vacances, parce que c'est la pression que je me mets. Parce que au final, si je ne le fais pas, je sais qu'il le ferait, mais moi, j'aime bien être cette personne, j'aime bien avoir ce rôle-là. Mais on est complètement, complètement à 50-50. Parfois même, je me dis, il fait plus que moi, j'abuse, culpabilise.
Le rêve de mon côté. Je pense qu'il y en a qui vont t'envier avec cette réponse. Et donc, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager ton ou tes moments les plus durs que tu as vécu, que tu vis dans ton quotidien ?
Alors, je pense qu'au quotidien, je pense que le moment le plus dur, c'est quand je rentre du travail, que je passe la porte, que je suis encore la tête dans le travail et que j'ouvre la porte et que j'ai mes deux enfants qui arrivent et qui commencent aujourd'hui et là je suis en mode wow. Et en fait c'est dur pour plein de raisons. C'est dur parce que déjà physiquement c'est dur parce que je suis fatiguée et que je suis encore dans le travail, qu'en général j'ai encore des messages, des emails auxquels il faut que je réponde, et donc j'ai à mes enfants, attends, j'envoie juste ça et puis après je suis avec toi, etc. Et puis parce que ça te renvoie une image de toi un peu pourri, quoi, de la mère qui n'arrive jamais à déconnecter. J'arrive à 19h, à 19h10, ma fille me dit, t'es toujours sur ton téléphone. Donc là, tu te dis, ok, c'est vrai, je suis toujours sur mon téléphone. Enfin, tu vois, tu te dis aussi que tes enfants méritent que tu sois à fond pour eux aussi. Oui. Donc, tu as été à fond toute la journée et puis tu arrives et tu leur dis je suis crevée. Sauf que eux, en fait, ils ont attendu toute la journée pour parler. Et c'est marrant parce que moi, j'avais le même. J'ai souvenir d'avoir la même chose avec ma mère. Parce que ma mère, elle a toujours beaucoup travaillé, elle a fait une super carrière, etc. Et elle était hyper busy. Et en fait, je me souviens que quand elle rentrait du travail, je me disais dans ma tête, alors, c'est quoi mes prios de ce que je veux lui dire ? Parce que probablement, j'aurais pas le temps de tout lui dire.
Ouais.
Et donc, je me dis, voilà, probablement, mes enfants se disent pareil. Ouais. Et donc, voilà. Donc, je pense que le moment au quotidien qui est difficile, c'est d'arriver à être vraiment 100% là pour ses enfants quand on rentre le soir. Mmh. C'est un temps assez court en plus, hein, parce que moi, mes enfants, ils se couchent assez tôt. On les couche vers 20h15. Mmh. Donc, en fait, voilà, on a une heure et quart pour se raconter la journée, jouer...
Et au pire, donc, tu rebosses c'est... après, au final, non ?
Comment ?
Tu rebosses après, si
t'as non.
quelques emails ?
Non, non. Alors oui, alors en fait, soir. Moi, en fait, je bosse tout le temps. C'est-à-dire que je m'arrête jamais de bosser. Je pense que c'est aussi un peu ça d'être DG, c'est qu'en fait, tu t'arrêtes jamais de bosser. Parce que t'es toujours avec ta tête et t'es toujours avec ton cerveau, et donc voilà. Mais c'est assez rare que je me repose devant mon ordi après. En revanche, je vais répondre à mes derniers emails.
Oui,
je vais penser je vais penser à différents sujets, etc., mais ça m'arrive très rarement de me refaire une presse. D'ailleurs, je fais plus de presse. Mais,
tant mieux.
Mais ouais, non, en général... heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense que je ne tiendrai pas.
C'est sûr. Et est-ce que d'être DG pour toi, c'est un peu de l'intrapreneuriat ? On est d'accord avec ça ?
En fait, une fois de plus, tout dépend de ton poste. Non, pas forcément. Je ne pense pas forcément. J'ai vraiment eu l'impression de faire de l'intrapreneuriat, par exemple, quand j'étais... chez Bénéfit en Amérique latine et que j'ouvrais des marchés. Mmh. En revanche, quand je suis rentrée en France et que donc j'étais directrice de la France, c'était plus de l'intrapreneuriat. Enfin, tu vois, c'était une grosse machine, c'était hyper rodé, hyper processé. Pas forcément, non.
Ok, parce que là, c'était juste qu'avec tout ce que tu me disais niveau charge mentale, pour moi, tu es un peu la même que fondateur.
Oui, mais parce que depuis que je suis chez Cisani.
Oui.
Et que je suis c'est complètement l'entrepreneuriat pour le coup.
Et c'est une question de taille de boîte alors, je pense.
C'est une question tout à fait de taille et de maturité et d'équipe. Moi, quand j'étais directrice du marché français, il y avait une direction Europe. Donc t'es pas du tout la dernière maille du
le dernier.
Oui. Enfin, c'est surtout d'être le dernier en fait le challenge. Oui. Le premier, c'est pas forcément. Quand tu es le dernier maillon de la chaîne et qu'en fait, tu te dis, en fait, c'est à moi de prendre la décision et c'est, si c'est bien, ça sera grâce à moi et si c'est pas bien, ça sera de ma faute. C'est complètement différent. Quand tu es dans un grand groupe, il y a énormément d'équipes, il y a énormément de gens intelligents. C'est beaucoup plus divisé.
Ok, trop bien. Merci beaucoup, Chloé. C'était trop intéressant. Et je te dis à très vite.
À très vite.
Merci de m'avoir accordé quelques minutes pour écouter cet épisode. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant autour de vous, en laissant un commentaire ou en m'écrivant en privé, ça me fait tellement plaisir. Je vous envoie plein de courage pour votre journée et à très vite pour un nouvel épisode.